Bonjour week-end.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Les grandes voix en débat chaque samedi, chaque dimanche, 18h30, 19h. Elle nous accompagne ce soir, ces grandes voix. Laetitia Krupa, journaliste politique. Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique, président de MCBG Conseil. Et François Claus, grand reporter, rédacteur en chef à Europe 1. Madame, messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Wendy.
Bonsoir.
Ah voilà, les troisièmes est là. À la une, Emmanuel Macron veut sortir de la morosité ambiante. Il veut mettre fin à l'incertitude qui taraude les Français. Avec cet assouplissement qu'on commence à connaître un peu plus dans le détail. Assouplissement en trois étapes pour sauver peut-être un esprit de Noël, on va y revenir. Avec en tout cas un désastre toujours visible à l'hôpital, car le problème reste entier. Un président qui remonte tout de même sa cote de popularité. Comment analysez-vous justement ces derniers sondages? En attendant, les appels à la responsabilité sociale se multiplient. Hier, les restaurateurs sur Europe 1, avant-hier, la culture et aujourd'hui, le monde du sport. On en parlait il y a un instant et vous pourrez réagir également. Mais je voudrais vous entendre d'abord sur vos choix personnels, vos coups de gueule et vos coups de cœur.
Wendy Bouchard,
les grandes voix.
Laetitia Krupa, coup de cœur, coup de gueule pour commencer ce tour de table.
Un coup de cœur, parce que j'ai envie de finir la semaine en beauté, un coup de cœur pour les 20 000 Français qui sont descendus dans la rue hier pour défendre la liberté de la presse, pour défendre le droit d'informer des journalistes, le droit des journalistes de filmer les policiers. Je ne sais pas si vous avez entendu Wendy, mais enfin, c'était quand même dans toutes les bouches quasiment des manifestants, c'est-à-dire qu'ils avaient l'impression de cet article 24 de la loi sur la sécurité globale aller interdire ou en tout cas contraindre les journalistes dans cet exercice-là.
Et vous avez dit, on aime les journalistes en France.
Et bien on s'est dit, oui, les gens finalement aiment les journalistes. On n'arrête pas de nous dire qu'il y a de la défiance, que nous sommes au plus bas dans tous les baromètres de confiance. Non, 20 000 manifestants, ce n'est pas la France entière, mais enfin c'est quand même pas mal. Je rappelle juste qu'il a toujours été possible de filmer les policiers. Ce qui est interdit, c'est de diffuser avec un objectif malveillant l'identité d'un porteur de force de l'ordre. Donc, je me dis, le ciel s'éclaircit. On voit même un peu de soleil parce que Gérald Darmanin, demain, reçoit les représentants des journalistes et Christophe Castaner déclare carrément son amour à la profession. Oui. Alors, je me dis, amis journalistes, vous pouvez souffler, restez vigilants. Évidemment, quand il s'agit de défendre le droit d'informer et la liberté de la presse, mais vous pouvez souffler.
Bon, donc vous êtes positive. Allez dans le détail peut-être sur la déclaration d'amour de Christophe Castaner. Est-ce le rôle d'un ancien ministre de l'Intérieur d'ailleurs de prendre ainsi les... avec littérature et prose,
ce combat entre les mains. C'est la totalité des titres de presse contre soi, hein, parce que c'est la totalité des titres de presse qui ont déclaré leur hostilité à la mesure.
Oui.
Il faut faire ce qu'on appelle du déminage. Oui. Et Christophe Castaner, avant d'être Premier ministre, était d'ailleurs un très bon porte-parole du gouvernement. C'est sans doute le rôle qu'il a le mieux joué. Donc il a une relation avec la presse un peu particulière, un peu plus proche, disons, qu'un autre ministre ou ancien ministre. Donc c'est probablement pour ça. Là, il faut sortir les avirons parce que Darmanin a déclenché une crise majeure avec la presse à lui tout seul. Donc, il va falloir déminer. Hein. C'est compliqué.
Et donc, juste le garde des Sceaux a rappelé aujourd'hui à la télévision que les journalistes ne seront pas concernés par la mesure de comparution immédiate qui visera justement les individus haineux sur les réseaux sociaux qui le font de façon malveillante. Les journalistes, je répète, ne seront pas concernés par la mesure de comparution. C'est important de répéter parce qu'il y a eu une telle levée de bouclier qu'on perdait quand même un peu le détail des risques et des contraintes.
Ce qui a redouté malgré tout dans cette affaire, même si le texte a permis d'encadrer un peu cette sacro-sainte liberté, c'est que les comportements changent maintenant avec ce débat-là. Et de ce point de vue-là, Darmanin a gagné. Les comportements de la police vis-à-vis des journalistes dans certains cas.
On a vu une belle image, cela dit. Hein. Les gendarmes ont levé leur casque justement hier devant les manifestants, preuve de leur pacifisme évidemment et peut-être même de leur neutralité dans ce dossier.
Très beau, effectivement. Hein.
François Claus, tenez, vous aviez un coup de cœur vous aussi à nous livrer ce soir.
Un coup de cœur aussi, comme Laetitia pour la fin de semaine, un coup de cœur pour une marque pas chère mais qui est très chère au cœur des Français. Décathlon, propriété, vous savez, de cette tentaculaire famille roubaisienne Muliez, qui possède entre autres Auchan. Non, Décathlon a effectivement confirmé vendredi soir avoir tout simplement retiré tous ses budgets de pub qui étaient alloués avant Noël, et ils sont conséquents à la chaîne de télévision CNews. L'information, en fait, a été dévoilée par le collectif de citoyens qui s'appelle Sleeping Giants, les géants endormis en français. Ce sont des citoyens qui luttent contre le financement des discours de haine. Et selon Sleeping Giant, c'est bien Décathlon, qui n'a pas confirmé, qui a été très sobre dans son communiqué, ne supportait plus le discours délétère de la chaîne qui appartient à M. Bolloré, notamment celui d'Éric Zemmour tous les soirs, sous le coup, rappelons-le, d'une enquête ouverte par le parquet de Paris pour provocation à la haine raciale et injure publique à caractère raciste. Alors oui, je souhaitais ce soir saluer cette attitude de Décathlon, qui l'avait également eue à propos du magazine à l'époque Valeurs Actuelles, une manière de se créer une image, bien sûr, je ne suis pas dupe, mais en même temps, on dénonce si souvent le monde de l'entreprise, celui du profit, son manque d'engagement dans la construction d'un autre monde, pour saluer cette belle initiative. Et ce soir, j'ai envie de vous dire, à fond la forme, oui, mais on n'oublie jamais le fond.
Ah, donc elle n'était pas contente, Nadine Morano, hein. Vous n'avez pas honte, Décathlon a-t-elle tweeté, entreprise partisane et sectaire, c'est ça vos valeurs, elles sont en contradiction avec celles du sport et avec les miennes, je regarde ces news, mais je quitte Décathlon. Voilà comment
oui,
cela traite du
débat politique. Oui, Nadine Morano et Nicolas Bay sont les deux qui ont réagi.
Oui.
Non, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. L'entreprise est libre de choisir où elle met la pub et de choisir l'image de marque. Une entreprise, c'est de l'image avant tout. Philippe, vous êtes le spécialiste, donc c'est vous qui allez nous éclairer. Mmh. Mais enfin, évidemment que c'est un énorme coup de pub génial, il me semble, pour Décathlon. Parce que le message envoyé, à mon avis, est positif. Mais bon, c'est Philippe le spécialiste.
Nadine Morano n'ira plus chez eux, elle ne sera peut-être pas la seule, mais non, ils s'en tireront positivement, Philippe Rochevrolet.
Après, aux États-Unis, par exemple, où c'est un grand jeu de prendre des positions de ce type, il y a eu un grand mouvement anti-mariage gay, par exemple, qui était très trumpien de la part de marques vraiment très conservatrices. Chacun a son public, j'ai envie de dire. Ça dépend de la cible, hein, finalement, de Décathlon. Et probablement, Décathlon a fait le choix plutôt de gens jeunes, urbains, qui ne sont pas vraiment dans la ligne de CNews, pour dire les choses, ou d'Éric Zemmour, pour dire les choses franchement.
En tout cas, c'est
ce choix-là aussi. Et ça constitue effectivement l'entrée des marques en politique. C'est un phénomène majeur et très intéressant. On voit que Facebook a les mêmes types de problématiques. Mmh. Toutes les marques, finalement, doivent se déterminer aujourd'hui. Moi, je vais vous parler d'une autre marque. J'ai un coup de cœur aussi pour une marque. On ne s'est pas concerté avec François.
Avec
mais est-ce que vous connaissez la définition de YOLO, Wendy?
Non.
YOLO, c'est you only live once. On ne vit qu'une fois. D'accord. C'est un mouvement sur Internet, où finalement on se dit on n'a qu'une vie, donc on va en profiter, on va avoir des moments où on fait un peu n'importe quoi.
D'accord.
Voilà. Et je suis sûr que vous avez des moments comme ça, Wendy, je suis sûr aussi que Laetitia a des moments YOLO.
Pas
et François entre
souvent,
deux, mais... voilà, François
toujours,
entre deux
toujours,
éditoriaux.
De plus en plus, moi.
Voilà, en François entre deux éditoriaux sur le Haut-Karabakh, je suis sûr que vous avez des petits moments YOLO comme ça. La communication est en train de devenir YOLO, c'est-à-dire qu'on sent bien que le gouvernement sur le Covid fait un petit peu n'importe quoi en termes de communication, et c'est très contagieux puisque Monoprix s'y met. Alors Monoprix a mis dans ses rayons, et c'est une campagne nationale, hein, des enseignes, enfin des affiches, où il est écrit, je vais vous en lire une ou deux, « Les vêtements pour enfants jusqu'à 3 ans sont à nouveau essentiels. On peut vous les vendre. Les autres sont priés d'arrêter de grandir. Une commission venant de conclure que l'eau s'amouille, nous avons finalement le droit de vous vendre des parapluies. Votre équipe Monoprix. Hein. Suite aux mesures gouvernementales, certains rayons ont été transférés directement chez vous. Ça, c'est monoprix.fr, petit côté digital. Si les biberons, ça c'est ma préférée, si les biberons n'étaient pas nécessaires, il fallait nous le dire et on n'aurait pas fait de bébé pendant le premier confinement. Ça c'est votre équipe Monoprix.
Ça c'est génial. Bah,
c'est
ils vont
génial.
Loin, hein, ils vont loin.
Ça a été repris partout. Alors il y a un communicant qui l'a analysé de manière très astucieuse, c'est Raphaël Liorca sur Twitter et qui dit, vous voyez, ça c'est la différence entre le premier et le deuxième confinement. Premier confinement, c'était le temps de l'héroïsme. On applaudissait, souvenez-vous Wendy, les soignants à 20h. Et la grande distribution disait à ses personnels, vous êtes les héros des Français, vous assurez leur nourriture.
Vous êtes sur le front
vous aussi. Ce qui est vrai parce que beaucoup par ailleurs sont tombés malades et certains sont morts. Donc c'était une réalité. Mais là, on est passé dans autre chose. Au fait, la grande distribution, elle reflète bien l'état d'esprit et l'âme des Français. Et en ce moment, ils sont très énervés. Et ils ont très envie de se rebeller et ils ne croient plus aux mesures gouvernementales.
Oui, mais c'est un aspect psychologique qu'on va un peu creuser ce soir. Laetitia, vous vouliez réagir à cela.
Et en plus, c'est en termes de timing excellent, puisque normalement, notre président devrait nous annoncer, si tout se passe bien, vu que c'est dans la presse partout, que les magasins rouvrent le week-end prochain. Donc vous voyez, c'est le timing est très bon, c'est-à-dire que...
Je ne suis pas sûr qu'il va aller à Monoprix faire ses courses, Manu. Hein,
on verra bien, mais enfin en tout cas, pour ce genre de communication, je trouve que voilà, c'est parfaitement forme et fond, comme vous disiez François, on y est.
Merci Philippe Monroche-Chevrolet, Laetitia Krupa, François Claus, voilà pour ces coups de cœur partagés ce soir. Petite pause et on va entrer dans le débat avec ce qu'il devrait annoncer Emmanuel Macron. Cette stratégie que vous avez commencé déjà de nous analyser, Laetitia Krupa, stratégie des petits pas, on sait quasiment déjà ce que le président va dire. Bon, bah, c'est nouveau, mais ça peut nous rassurer. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix en débat sur Europe 1. Laetitia Krupa est avec nous ce soir, journaliste politique. Philippe Moreau-Chevrolet qui vient de nous analyser la sacrée campagne de Monoprix, spécialiste en communication politique et président de MCBG Conseil. Et avec nous également François Claus, grand reporter, rédacteur en chef à Europe 1 et grande voix de la maison. Vous le connaissez. Alors j'aimerais qu'on parle psychologie un petit peu, chers amis, parce que on entend beaucoup parler de morosité, cette inquiétude, cette irritabilité des Français. Voilà le vocable qu'on utilise vraiment au gouvernement. Pour preuve de la prise de conscience justement que les Français ne vont pas bien, ça a commencé mardi très clairement avec Jérôme Salomon qui parle de cette inquiétude et de cette santé mentale de nos compatriotes. Écoutez.
Santé publique France révèle aujourd'hui que la santé mentale des Français s'est de nouveau dégradée entre fin septembre et début novembre. La crise sanitaire du Covid-19 a révélé la vulnérabilité psychique de nombreux Français. On observe ainsi une augmentation importante des états dépressifs.
Voilà, on y est. Il va falloir s'attaquer à cette santé mentale, François Claus. Discours important qui change un petit peu de donne.
Oui, c'est une marge de manœuvre étroite. Hein. Il y a ce besoin de retour à la vie qu'on a tous au fond de nous. Il y a le besoin impérieux de sauver ce qu'on peut encore sauver sur le plan économique. Et il y a le besoin encore plus impérieux de tenir compte de la réalité sanitaire. Avec ces trois arguments-là, il faut tenir un discours à la nation qui soit un discours de responsabilité des citoyens. Or, Emmanuel Macron, le jeune technocrate, Emmanuel Macron qui devrait être un père de la nation rassurant, qui devrait avoir en lui un zeste de Chirac, une dose de Mitterrand, il est loin de les avoir. Et le discours qu'il va tenir là, entre la nécessité de maintenir des règles indispensables pour sauver ce qui peut être sauvé en termes d'urgence à l'hôpital et en même temps le retour à la vie que Noël implique, va être très difficile. D'autant plus que le risque qu'on revive le retour à la vie qu'on a évoqué à la fin de l'été et qui a été si capital dans le développement de la deuxième vague de l'épidémie, ça va être compliqué avec Noël. Certes, ce n'est plus l'été, mais c'est l'hiver. C'est le moment où on se regroupe tous. Noël, c'est effectivement une église bondée pour la messe de minuit. C'est se retrouver tous en famille, nombreux, autour du sapin et du repas. Même le beau-frère qu'on ne veut jamais voir dans l'année, on le voit une fois par an à Noël en famille. Donc il va falloir dire aux gens de faire attention tout en leur disant « il faut fêter Noël ». Pour tout vous dire, je suis un peu inquiet de la possibilité qu'il aura de nous responsabiliser, de trouver les mots qu'il faut. C'est tout son défi.
Oui, avec cet assouplissement en trois étapes que commence encore à définir Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement dans le journal du dimanche, que vous avez lu attentivement.
Oui, moi ce qui est génial, c'est qu'en lisant la presse et en écoutant les ministres, parce qu'il y a deux façons de faire fuiter. Hein. C'est depuis que Jean Castex est arrivé à Matignon, c'est la même stratégie de communication, c'est-à-dire qu'avant les annonces officielles, on laisse fuiter les annonces qui vont être faites, c'est-à-dire les mesures, le durcissement ou plutôt l'assouplissement, la tendance, certaines mesures même de façon très précise, soit dans la presse, soit dans la bouche des ministres. Mais alors là, c'est génial parce qu'on a deux en un dans le JDD aujourd'hui. Gabriel Attal, qui est souvent celui qui distille comme ça les informations avant le Premier ministre ou là, dans le cas qui nous occupe, avant le Président. Là, on a tout. Voilà, on a tout, donc on a, comme on a dit, les commerces vont rouvrir, le Black Friday,
le
Black Friday le 4 décembre, les cultes aussi avec des mesures sanitaires strictes, mais enfin on devrait pouvoir être dans une église normalement à peu près à 30 personnes, les sports, vous aviez là justement à l'instant
sports,
Wendy,
qui nous disait a priori autour du 1er décembre pour les enfants.
Autour du 1er décembre, et puis on a même la philosophie, vous savez, on a toujours dit, c'est un peu le mot fourre-tout, mais la doctrine du gouvernement. Et alors, ce n'est plus le vivre avec le virus, mais c'est le mieux vivre avec le virus dans les prochaines années. Et voilà, et cette petite formule va être en toile de fond, je vous le donne en mille, on se verra le week-end prochain, de l'intervention d'Emmanuel Macron, qui, je vous écoute attentivement François, a quand même un talon d'Achille depuis son arrivée à l'Élysée, c'est la proximité et l'empathie. Et là, fois-ci, il n'a pas d'empathie.
C'est sa difficulté, ouais.
Et 9 mois après le « Nous sommes en guerre » qui a tant effrayé, et à juste titre au départ, les citoyens que nous sommes, il va falloir justement rassurer et essayer de sortir de notre torpeur, voire de ces dépressions très très lourdes parfois, un certain nombre de nos concitoyens.
Il y a quand même un citoyen français sur 5 qui est dépressif en ce moment, enfin qui explique qu'il est dépressif. Donc c'est une partie importante de la population. Ça fait une personne sur 5 que vous croisez, enfin que vous ne croisez plus dans la rue qui va pas bien. Donc évidemment, le chef de l'État doit en tenir compte, il doit faire preuve d'empathie, mais nous, je pense que ce que collectivement, ce qui permettrait peut-être de sortir de tout ça, c'est qu'il soit clair, en fait. C'est que c'est vraiment clair, la clarté. Il y a un sujet sur lequel il pourrait axer son intervention, je suis bien persuadé qu'il ne le fera pas, mais rêvons un peu, c'est la vaccination. Peut-être nous dire simplement, est-ce que l'Allemagne, est-ce que l'Italie sont tout seuls à se préparer avec des vaccinodromes, avec une communication extrêmement claire sur quelles catégories de la population vont être vaccinées, avec tout un processus qui, au fond, est déjà communiqué, en cours, en train. Est-ce que c'est la même chose en France? Probablement oui, on n'imagine pas qu'on reste passif là-dessus. Mais je pense qu'il faudrait le dire, parce qu'on a un historique un peu compliqué avec la communication de l'action du gouvernement dans cette crise. Donc il faudrait peut-être projeter les gens vers plus d'optimisme. On a un vaccin ou plusieurs vaccins.
Oui.
Et la crainte des Français, majoritairement, c'est que ce soit tué par des arcanes administratives incroyables, qu'il y ait des obstacles à n'en plus finir, qu'on mette 20 ans à mettre des validations. Vous voyez bien ce que je veux dire. Toute cette technocratie qui, elle, est vraiment effrayante et au nom de laquelle on vous demande une attestation de transport que plus personne ne comprend et qui n'a aucun sens. Elle est unique au monde, hein, par ailleurs. Et tout ça ne nous rend pas des meilleurs élèves puisqu'il y a un classement de The Economist qui vient de sortir, des pays qui respectent le mieux les règles de l'OMS et de la communauté scientifique. Et on est en 18e position, très très loin devant l'Allemagne qui doit être 5-6. La Nouvelle-Zélande étant le numéro 1. Comme quoi, il n'y a pas que parce que c'est une île qu'elle gère bien l'épidémie. C'est aussi parce qu'elle respecte à la lettre les consignes des scientifiques. Donc peut-être qu'il y a du grain à moudre pour l'intervention de mercredi.
Oh oui.
Mais être après, il y a deux choses. Philippe, il y a deux choses. Il y a à la fois l'attitude de Macron, l'attitude du pouvoir, et puis l'attitude des Français eux-mêmes, qui sont parmi les plus rétifs dans le monde, on le sait aujourd'hui,
à la vaccination.
Il y a aussi cette donnée qu'il doit, lui, prendre en compte. C'est-à-dire il n'est pas le seul avec le gouvernement à inciter. C'est aussi ce que nous sommes, nous, profondément français, dans ce désir totalement égalitaire que nous avons et totalement rebelle d'un autre côté, qu'il va falloir domestiquer. Et oui, c'est pas simple.
On fera le compte d'ailleurs sur la vaccination contre la grippe, la grippe saisonnière. Parce que
une vaccination, ça peut se rendre obligatoire. Rappelons qu'il y a des vaccins obligatoires dans ce pays.
Certes,
pourquoi pas.
Laetitia Krupa.
Mais vous avez tout à fait raison, François, parce qu'il y a quand même un problème dans toute cette stratégie mise en place pour essayer de vaincre ce virus, c'est l'isolement. Alors là, il y a une grande discussion qui est en train de se faire dans la majorité, qui est portée par le groupe Agir, mais que Gabriel Attal aborde dans son interview au Journal du Dimanche. Il dit qu'à titre personnel, il ne serait pas contre des amendes pour la personne testée positive ou cas contact qui ne respecte pas l'isolement. Et ça, il me semble qu'avant d'aborder le déconfinement, c'est une question qui est cruciale. Mais sans forcément entrer avec le biais autoritaire, coercitif. Il y a un médecin aussi qui, dans interviewé également aujourd'hui, qui explique qu'il peut y avoir tout un arsenal de mesures d'accompagnement pour la personne qui serait positive ou cas contact, d'information évidemment, mais d'aide pour la vie quotidienne, pour les courses, pour tout ce dont elle a besoin, et aussi pour le télétravail, Wendy. Non mais rendez-vous compte, mardi sera une négociation finale, il me semble, entre syndicats et demain, réunion finale dans les négociations entre syndicats et patronat sur le télétravail. Mais on télétravaille depuis 8 mois. C'est-à-dire que les syndicats et le patronat continuent de télétravailler.
Oui.
Donc évidemment que pour les personnes positives isolées, il faut que ce soit tout de suite urgent. Il faut qu'on sache comment télétravailler, comment se faire aider, comment rester chez soi quand on est seul ou pas. Une semaine sans sortir.
Alors l'isolement, les modalités pratiques, les éventuelles sanctions à la clé, mais on peut, à mon avis, gager que le discours d'Emmanuel Macron sera aussi très psychologique. Et je reviens au préambule de notre discussion sur Jérôme Salomon et sur notre santé mentale. Car qui dit morosité dit épargne forcée quand on a quand même un petit peu de sous et quand on peut au moins manger deux fois par jour. Mais il faut redonner la confiance, il faut redonner envie aux Français de consommer. Ça aussi, c'est l'économie, ça aussi, c'est la politique, Philippe Mangeau.
Oui, c'est la politique. Alors, ce qu'il faut arriver à faire quand je parle de clarté, c'est aussi que les Français croient que si on fait les choses bien, on ne sera pas reconfinés. Donc c'est le problème, c'est de sortir du stop and go, parce que là on pensait que la première fois serait unique, du coup on y est allé à fond et beaucoup de gens ont écrit des récits bucoliques sur leur confinement en ne se rendant pas compte de la réalité, mais ils ont pu se protéger. Là on ne peut plus se protéger parce qu'on a le sentiment que ça peut recommencer éternellement, donc il n'y a plus ce petit confort de se dire je fais cet effort une fois, pas deux, pas trois, pas quatre. En fait on n'en sait rien. Donc l'enjeu aussi pour Macron, c'est de dire maintenant j'ai compris ce que c'était que cette crise. On a eu, disons, une courbe d'apprentissage. J'ai compris comment ça marche. J'ai compris qu'il faudra peut-être éradiquer ce virus, mais pas penser qu'on peut vivre normalement avec tous les jours. J'ai compris qu'on ne peut pas monter jusqu'à 40 000 cas par jour et que ça se passe bien. J'ai appris, en fait. Et donc, on va gérer mieux, différemment, je m'implique, etc. S'il pouvait dire un truc comme ça, je pense qu'il rentrerait dans l'histoire d'une certaine façon, parce qu'il montrerait qu'on peut... Il peut devenir Édouard Philippe quelque part, il peut dépasser Édouard Philippe. Voilà.
Bah, en tout cas, il progresse dans les sondages. Nouvelle progression de 3 points pour le chef de l'État.
Absolument.
41% de satisfaits, il se restructure.
François Hollande, après le Bataclan, était monté à 50%.
Hein.
Ouais, il y a un réflexe.
Oui, mais là, c'est vrai, pardon, pour Macron, il atteint son meilleur score depuis 6 mois. Mmh. Et quand on compare avec François Hollande et Nicolas Sarkozy, c'est plus haut que ces deux ex-présidents à la même période de leur mandat.
Ça veut dire qu'il a su rassurer.
Oui, et moi je me demande si finalement la répartition des rôles qu'on évoquait tout à l'heure et qu'on a tant contesté, voilà, on a un axe d'un côté Véran, on a de l'autre côté Bruno Le Maire et Gabriel Attal qui sont là, on a Jean Castex qui essaye de faire une synthèse et qui prend tous les coups, et on a la figure ensuite d'Emmanuel Macron qui arrive en troisième volée derrière, et finalement ça lui profite à lui. Je me demande si ce calcul-là finalement, en tout cas pour lui, n'est pas un calcul pour le moment qui pourrait s'avérer gagnant. Même si avec cette épidémie et les conséquences, on n'est sûr de rien.
C'est évident qu'il a 2022 dans son viseur. Hein. Il sait très bien que la façon dont il va sortir de cette crise, le bilan qu'il aura après cette crise sanitaire, sera peut-être décisif.
En une petite minute, François, parce que je sais que c'est l'une de vos passions, le sport, vous avez sans doute lu la tribune d'un certain nombre de responsables associatifs pour protéger ce sport amateur et ce terreau associatif qui fait souvent le lien social dans des quartiers défavorisés, qui est un peu la seule boussole de ces jeunes. Comment vous l'avez reçu? Je ne sais pas si vous avez entendu la ministre des Sports.
Absolument.
Hein, qui semblait dire que tout était fait.
Elle m'a un peu rassuré, parce que moi j'ai été effondré par le fait que seuls 120 millions d'euros dans le plan de relance, c'est-à-dire 0,1% du plan de relance soit accordé au sport. Quand on sait que le sport, dans sa pratique pour tout le monde, c'est une manière de nous protéger, de nous immuniser, et aussi qu'on en a tous besoin, et de voir, comme le disait Daoud Asso, comment le sport aujourd'hui est un des vecteurs, plus encore que l'école, que de sauver des gamins qui sont en perdition, qu'on n'ait pas pris plus tôt conscience de la catastrophe qui s'annonce pour le monde associatif. Y aura-t-il des bénévoles demain ? Pour les clubs aujourd'hui qui perdent environ 30% de leurs licenciés et qui ne savent pas comment ils vont être financés, il semblerait qu'il y ait une prise de conscience. Si j'ai bien entendu la ministre ce soir, il faut qu'elle se concrétise très vite, parce que c'est un des enjeux majeurs.
Merci François Claus, merci Philippe Moreau-Chevrolet, Laetitia Krupa, nos grandes voix qu'on retrouve avec plaisir samedi et dimanche prochain. Merci à vous tous.
Europe Soir Weekend,
Wendy Bouchard.